Quelque part sous les tropiques, un enfant dort. Il ne sait pas que la créature la plus dangereuse du monde est à l'extérieur de sa maison. Elle est enceinte, mais avant de pouvoir pondre ses œufs, elle doit se nourrir. Elle vole par la fenêtre et se dirige vers le garçon. Elle peut le sentir et sentir sa chaleur corporelle. Quand la femelle moustique l'atteint, elle atterrit sur son pied et se prépare à boire. Elle glisse sa trompe à travers sa peau dans un vaisseau sanguin et injecte de la salive pour empêcher la coagulation de son sang. Dans sa salive est un parasite qui a tué plus de gens que toute autre maladie. Il tuera 1 millier de personnes aujourd'hui. Le parasite est appelé Plasmodium et la maladie est appelée paludisme. Les parasites appelés sporozoïtes à ce stade de la vie chevauchent les courants de sa circulation sanguine jusqu'à ce qu'ils atteignent le foie. Quand ils y arrivent, ils se logent dans les cellules hépatiques. Une fois à l'intérieur, ils commencent à manger et à grandir, copiant leur génome encore et encore, jusqu'à ce qu'ils se développent en schizontes. Quand ils sont prêts, les schizontes et les cellules du foie qu'ils infestent éclatent, libérant des milliers de trophozoïtes dans le sang. Les trophozoïtes pénètrent dans les globules rouges, où ils sont cachés du système immunitaire pendant qu'ils mangent l'hémoglobine et se reproduisent. La cellule, une fois infectée, se colle à la paroi d'un vaisseau sanguin, où elle finit par éclater, libérant des mérozoïtes, qui infectent plus de globules rouges, et des gamétocytes, qui sont sexuels, mais restent dormants tant qu'ils restent à l'intérieur du garçon. Comme le nombre de parasites augmente, le système immunitaire de l'enfant prend conscience des envahisseurs et commence à les combattre, ce qui provoque de la fièvre ainsi que des douleurs à la tête et aux muscles. La nuit, une autre moustique femelle vole à l'intérieur de la maison. Attirée par les signaux chimiques donnés par les parasites et la chaleur de la fièvre du garçon. Elle ignore les membres de sa famille et le mort, ne sachant pas qu'il y a des parasites dans son sang. Elle trouve alors un endroit pour se reposer pendant quelques jours pour digérer son repas. Les mérozoïtes et les trophozoïtes ne peuvent pas survivre à l'intérieur d'un moustique. Alors ils meurent et sont digérés. Mais comme le sang de l'enfant commence à refroidir, les gamétocytes deviennent actifs. Les gamétocytes femelles deviennent rapidement des œufs, mais les gamétocytes mâles prennent plus de temps pour devenir du sperme. Un ovule est fécondé par un spermatozoïde d'une alimentation précédente. Après qu'il s'accouple, les deux gamétocytes deviennent un oukinète et commence à se déplacer autour de l'estomac du moustique femelle. Quand il atteint la paroi de l'estomac, l'oukinète creuse à travers et devient un oukyste, qui produit alors des milliers de sporozoïtes et qui migre vers les glandes salivaires du moustique. Lorsque la femelle est prête, elle trouve de l'eau et pond ses œufs, puis elle cherche une autre personne pour se nourrir et les infecter avec le paludisme par la même occasion. Le mot malaria vient de l'italien malaria, qui signifie mauvais air. C'est le résultat de la vieille croyance que le paludisme est causé par des vapeurs qui proviennent des marées et marécages. Les gens croyaient cela parce que les moustiques se reproduisent dans l'eau stagnante, ce qui rend les insectes et la maladie communs dans ces zones. D'autres croyances sur les causes de la maladie comprennent la sorcellerie, la consommation des mauvais aliments, souvent des mangues ou d'autres fruits qui mûrissent après le début de la saison des pluies, ou le fait de marcher à travers les flaques d'eau qui coïncident tous avec la saison des moustiques. Les seules autres façons de propagation du paludisme sont soit par contact avec du sang contaminé ou par transmission de mère à enfant durant la grossesse. Le plasmodium a évolué à partir d'un type d'algues appelées dinoflagellés, qui sont connues pour la photosynthèse et la consommation de petits organismes dans l'eau. Dans certaines conditions, les dinoflagellés peuvent commencer à se reproduire si rapidement qu'ils tournent l'océan au rouge, rendent les nageurs malades et rendent les mollusques toxiques. Lorsque cela se produit, cela s'appelle une marée rouge. Il semble que le plasmodium ait évolué après que certains dinoflagellés sont devenus des parasites d'insectes aquatiques, puis se sont propagés aux moustiques et aux vertébrés qu'ils piquent. Les dinoflagellés et les plasmodes font partie du règne protozoaire alvéolé, qui comprend plusieurs autres espèces qui causent des maladies transmises par les insectes, telles que la toxoplasmose. Et parmi les membres de ce règne, on trouve de nombreuses autres algues qui à la fois photosynthétisent et se nourrissent d'autres microbes. Il est théorisé que le plasmodium a évolué à partir d'un zooplancton qui a mangé une cellule d'algues rouges et a formé une relation symbiotique avec elle au lieu de la digérer. Même après des millions d'années en tant que parasite, 10% des gènes du plasmodium aideraient à la photosynthèse. Au moment de l'enregistrement de cet épisode, plus de 250 espèces de plasmodium ont été décrites, infectant une grande variété de mammifères, d'oiseaux et de reptiles. Une énorme augmentation par rapport à 2010, où seulement une centaine environ ont été décrites. Chez les mammifères, le paludisme est propagé par le genre Anopheles de moustiques, qui comprend plus de 450 espèces décrites sur un total de 3500 espèces de moustiques décrites. Les Anopheles existent sur toutes les masses continentales habitées, à l'exception de la Polynésie, enfin certaines îles de l'océan Pacifique. Au moins 70 des 450 espèces peuvent propager le paludisme, dont 30 à 40 le propagent suffisamment pour être considérés comme des vecteurs importants de la maladie. Dans les années 1800, les moustiques ont été introduits dans de nombreuses îles du Pacifique et ont commencé à transmettre le paludisme aviaire des oiseaux de mer et des poules aux oiseaux indigènes des îles. Aujourd'hui, presque tous les oiseaux indigènes hawaïens meurent s'ils volent à moins de 1200 mètres au-dessus du niveau de la mer, mais cela est une histoire pour un podcast futur. Comme tous les moustiques, les anopheles pondent leurs œufs dans l'eau, mais contrairement aux autres moustiques, leurs œufs ont un flotteur de chaque côté qui les maintient à la surface. Les œufs éclosent généralement en larve après 2 à 3 jours, mais cela peut prendre jusqu'à 2 ou même 3 semaines dans les climats de froide tendance. Les larves d'anopheles se nourrissent de bactéries et d'algues à la surface de l'eau et ne plongent que lorsqu'elles sont dérangées. Elles flottent parallèlement à la surface de l'eau, contrairement à la plupart des autres larves de moustiques qui flottent verticalement. La plupart des espèces d'anopheles préfèrent l'eau claire, mais elles peuvent être trouvées dans toutes sortes d'habitats, y compris les zones humides d'eau douce et salée, les rizières, les bords de ruisseaux, les flaques d'eau temporaires, même l'eau piégée dans les feuilles, les trous d'arbres, les empreintes de pieds, les traces de pneus ou les déchets. Certaines espèces préfèrent l'eau ombragée, tandis que d'autres préfèrent la lumière du soleil. Lorsqu'une larve est prête à devenir adulte, sa tête et son thorax fusionnent et elle devient une chrysalide. Mais contrairement à la plupart des pupes d'insectes, les pupes de moustiques sont toujours capables de se déplacer car elles ont besoin de respirer à la surface. Après quelques jours, la chrysalide se fend et un moustique adulte émerge. Dans les régions tropicales, il faut généralement 10 à 14 jours pour qu'un œuf devienne un moustique adulte. Mais cela peut prendre aussi peu que 5 jours. Les moustiques adultes se nourrissent de nectar et s'accouplent généralement quelques jours après la sortie de leur chrysalide. Les mâles se rassemblent en essaims dans lesquels les femelles volent pour trouver un partenaire, généralement une seule fois. Les mâles meurent après environ une semaine, tandis que les femelles peuvent vivre plus d'un mois en captivité, bien qu'elles ne vivent probablement pas plus d'une semaine ou deux dans la nature. La façon la plus simple pour distinguer les anopheles adultes des autres moustiques est la façon dont ils tiennent leur corps. Les autres moustiques gardent leur abdomen, qui est la partie arrière de leur corps, parallèle à la surface sur laquelle ils sont assis, tandis que la plupart des anopheles érigent le leur à un angle par rapport à la surface. Les anophèles ont également des taches noires et blanches sur leurs ailes et leurs palpes sont aussi longues que leur proboscis, trompe. Certaines espèces ne propagent le paludisme qu'en dans certaines conditions. D'autres espèces, qui peuvent être porteuses du paludisme, ont des souches qui ne peuvent pas le porter. La plupart des moustiques anophèles sont crépusculaires, actifs au crépuscule ou à l'aube, ou nocturnes, donc actifs la nuit. Certains articles sur le paludisme incluent des photos de moustiques avec des bandes blanches sur leurs pattes, mais ce sont soit de l'espèce Aedes aegypti, également connue sous le nom de moustique de la fièvre jaune, ou bien de l'espèce Aedes albopictus, qui est également appelée moustique tigre. Aucune des deux espèces ne propage le paludisme, mais il propage un certain nombre d'autres maladies. Je soupçonne qu'il est beaucoup plus facile de lutter contre le paludisme au niveau local s'il y a des entomologistes locaux, c'est les chercheurs qui étudient les insectes, et savent quelles espèces d'anophèles sont les plus importants vecteurs du paludisme dans la région et comment les contrôler. Hélas, les pays les plus gravement atteints par le paludisme sont trop pauvres pour payer autant de scientifiques. Le nom anophèle est dérivé du mot grec pour non rentable, inutile ou nuisible qui les décrit assez bien. Je pourrais faire des épisodes supplémentaires sur les pires espèces d'anophèles à l'avenir. Il y a environ 3000 à 4000 ans, une tribu d'Afrique de l'Ouest a commencé à couper des arbres pour faire pousser des ignames et des plantains. Une fois les arbres abattus, il n'y avait plus de couches de matière végétale en décomposition sur le sol de la forêt, ce qui a permis la formation de flaques d'eau sur le sol. Certains moustiques ont profité des flaques d'eau et des sources de sang abondantes en se déplaçant dans les villages et en devenant membres du complexe d'espèces Anopheles cambiae. Un complexe d'espèces est un groupe d'espèces étroitement apparentées qui sont difficiles à distinguer sans tester leurs ADN. Le complexe Anopheles gambiae comprend 8 espèces qui ont été décrites à ce jour, dont 3 qui sont les plus importants vecteurs de paludisme. La première est Anopheles gambiae sensu stricto, c'est-à-dire au sens strict en latin. La deuxième est Anopheles colluti et la troisième est Anopheles arabiensis. Anopheles gambiae sensu stricto semble être en train de se diviser en 2 espèces et certaines souches de celles-ci ne propagent pas le paludisme parce que leur système immunitaire attaque les plasmodes lorsqu'ils creusent à travers la paroi de l'estomac. D'autres membres du complexe se nourrissent principalement d'autres animaux ou se reproduisent en eau salée, ce qui limite leur capacité à transmettre le paludisme aux humains. Depuis, la tribu humaine s'est développée, divisée et émigrée, devenant les tribus bantoues qui constituent désormais la majorité des populations et des groupes ethniques en Afrique subsaharienne. Il est probable qu'ils aient pu remplacer d'autres tribus si efficacement parce qu'ils avaient des défenses génétiques contre le plasmodium qui manquait aux habitants précédents. Les premiers symptômes du paludisme non compliqué sont la fièvre, des frissons, des maux de tête, des courbatures, des sueurs, des nausées et des vomissements. Il peut également y avoir une légère jaunisse et une hypertrophie de la rate et du foie, qui peuvent être permanentes. Les symptômes exacts peuvent varier beaucoup. Si ces symptômes vous semblent familiers, c'est parce que de nombreuses maladies ont des symptômes similaires. Cela fait en sorte qu'il est difficile pour de nombreuses personnes dans les pays impaludés de distinguer le paludisme d'autres maladies. C'est semblable à la façon dont de nombreux occidentaux ont du mal à distinguer la grippe d'autres maladies présentant des symptômes similaires et les appellent toutes la grippe. Un cas compliqué peut également causer une anémie sévère, une insuffisance rénale, une hypoglycémie ou bien des troubles respiratoires, des bébés prématurés ou en insuffisance pondérale, une acidose ou sang acide causé par l'accumulation du dioxyde de carbone parce qu'il n'y a plus assez de globules rouges pour l'enlever du corps. Mais le pire de tous est le paludisme cérébral. Il provoque des crises et un comportement étrange, le coma, et peut même conduire à des problèmes permanents. On en cite des troubles moteurs, des paralysies, des difficultés à parler, la surdité, la perte de mémoire, des capacités cognitives entravées, une intelligence réduite, en particulier lorsque les enfants sont infectés, ainsi que les fausses couches et la mort lorsque les femmes enceintes attrapent la maladie, malheureusement. Malgré les effets graves du paludisme, il est considéré comme normal dans la plupart des pays paludés, parce que presque tout le monde a été infecté à plusieurs reprises et la plupart des infections chez les adultes ne causent que des maladies relativement mineures. Au Malawi, par exemple, une personne peut s'attendre à être mordue par un moustique infecté 170 fois par an. Encore plus, 40 à 70 de la population a des parasites du plasmodium dans le sang à un moment donné. En 2010, 250 à 500 millions de personnes ont été infectées, ce qui a entraîné environ 1 million de décès. En 2015, le paludisme a causé 212 millions d'infections, dont 429 000 décès qui ont, ou bien qui sont, principalement des enfants et des femmes enceintes, ainsi qu'un nombre inconnu de fausses couches. Ces chiffres présentent une réduction de la mortalité de 29% par rapport à 2010 et de 48% par rapport à l'année 2000. Environ 90% des cas et des décès se trouvent en Afrique subsaharienne et environ 40% des autres en Inde. Quelques pays africains, principalement en Nord-Afrique, ont réussi à éliminer le paludisme dès les années 70. La maladie demeure toutefois un défi majeur dans la région où plus de 50% de la population vivent dans des zones à risque. Près de 10 millions de personnes sont atteintes chaque année et 15 000 en meurent. Il est à noter qu'environ la moitié de toutes les personnes vivantes aujourd'hui sont à risque, même dans les pays où la maladie est éradiquée. Il suffit qu'un seul hôte du parasite se fasse piquer par un moustique pour réintroduire le paludisme. Par ailleurs, lorsque la maladie est éliminée d'un endroit, moins de gens meurent de toute cause. Un prix Nobel a même calculé que la moitié de tous les décès humains à travers l'histoire ont été causés par le paludisme. Mais il a obtenu son prix en physique. Du coup, il faudrait prendre cette déclaration avec un grain de sel. Le paludisme infectera les gens à plusieurs reprises. Mais après suffisamment d'infections, les gens peuvent obtenir une certaine immunité. C'est pourquoi 70% des décès dus au paludisme sont chez les enfants de moins de 5 ans. Heureusement, les décès d'enfants de moins de 5 ans sont tombés de 440 000 en 2010 à 285 000 en 2016. Toutefois, s'il y a une saison de paludisme suivie de plusieurs mois sans paludisme, elle peut toujours être dangereuse pour les adultes. Les personnes qui quittent une région impaludée et reviennent peuvent tomber vraiment malades parce qu'elles ont perdu leur immunité. Le paludisme est généralement très dangereux pour les voyageurs et les personnes dans les régions où il est présent, mais rare. Si le système immunitaire d'une femme enceinte fonctionnait correctement, il pourrait attaquer le fœtus en développement. En réalité, le système immunitaire des femmes est supprimé pendant la grossesse. Malheureusement, cela rend les femmes enceintes 3 fois plus susceptibles de souffrir d'un paludisme grave que les femmes non enceintes. Et près de 50% des femmes enceintes atteintes d'un paludisme grave meurent. Le plasmodium pénètre également dans la placenta et infecte le fœtus. causant une fausse couche ou un faible poids à la naissance, ce qui augmente considérablement le risque de décès chez le nourrisson dans la petite enfance. Une étude d'autopsie au Mozambique a révélé que 10% des décès chez les femmes enceintes sont directement causés par le paludisme. Les personnes séropositives sont également plus à risque de paludisme grave parce qu'elles ont également un système immunitaire affaibli. En raison des conséquences qu'il peut avoir sur les populations, le paludisme a eu un effet énorme sur l'histoire du monde. Il est courant que les agriculteurs soient trop malades pour travailler pendant la saison de plantation, ce qui provoque des pénuries alimentaires depuis des milliers d'années. En combinaison avec les effets du paludisme cérébral, les pénuries récurrentes ont considérablement ralenti le développement économique de la plupart des sociétés tropicales. Ce ralentissement a été estimé à une hauteur de 1,3% de croissance du PIB chaque année. Par contraste, le paludisme a retardé la colonisation de l'Afrique par les Européens. Les Européens appelaient souvent l'Afrique de l'Ouest la tombe de l'homme blanc, parce que les premières tentatives de colonisation échouèrent grâce au paludisme et à d'autres maladies tropicales qui tuaient les colons. Même les pirates caribéens ont été liés à ces maladies, après que la traite négrière ait établi le paludisme et la fièvre jaune dans les Caraïbes. Les soldats et marins européens stationnés là-bas subissaient tant de morts et de maladies débilitantes qu'ils ne pouvaient pas se battre 3 mois après leurs arrivées, forçant les autorités locales à compter sur les pirates pour les défendre lorsque la guerre éclatait. Ça a également causé beaucoup de problèmes pendant la Seconde Guerre mondiale. Le général MacArthur a fait remarquer qu'il est difficile de faire la guerre alors que pour chaque soldat sur le terrain, il y en a un à l'hôpital et un qui récupère ses forces. Ses adversaires japonais amenaient des grands-mères avec les unités militaires pour rentrer les moustiquaires des soldats sous leur matelas. Le paludisme est aujourd'hui rare dans les pays industrialisés grâce à une combinaison d'efforts de lutte, des logements impénétrables par les moustiques et dans beaucoup, mais pas tous, l'hiver qui est le meilleur tueur de maladies tropicales. Toutefois, les voyageurs en provenance de ces pays sont souvent infectés et meurent parfois. Les voyageurs infectés peuvent également provoquer de petites flambées dans des endroits qui ont éliminé le paludisme, mais qui ont encore des anopheles qui peuvent le propager. Les gens attrapent même parfois le paludisme à l'aéroport ou le paludisme propagé par les moustiques qui se glissaient dans les avions. Heureusement, les deux cas sont rares, mais ils deviendront plus fréquents à mesure que le climat se réchauffera. Et il faudra se protéger pour empêcher le paludisme de retourner dans les pays qui l'ont éliminé. Chez l'humain, la malaria est causée par 4 espèces de protozoaires appartenant au genre Plasmodium. Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, Plasmodium malariae et Plasmodium falciparum. Les personnes sont souvent infectées par plus d'un d'entre eux en même temps. Il y a aussi des espèces de paludisme à singes qui peuvent nous infecter. L'une des plus anciennes espèces de paludisme humain est un Plasmodium malariae, qui a commencé à nous infecter il y a environ 500 000 ans, quand nous vivions principalement dans les savanes de l'Afrique où il y avait peu de moustiques. Il est à noter que le paludisme peut rester dans le corps humain jusqu'à 70 ans, en attendant que son hôte soit mordu par un autre moustique et se nourrissant de vieux globules rouges, heureusement faisant relativement peu de mal. Il se développe également lentement chez le moustique par temps chaud. Il peut prendre 2 semaines pour mûrir suffisamment pour se faire passer à une autre personne. Par temps froid, il peut prendre 1 mois. À ce moment-là, le moustique sera mort. Le paludisme humain le plus meurtrier est le Plasmodium falciparum, qui cause depuis 2015 200 millions d'infections cliniques et au moins 300 000 décès chaque année. Falciparum a évolué à partir d'une espèce de paludisme gorille au cours des 10 000 dernières années. Toutefois, cela n'a été découvert que récemment par une équipe de scientifiques utilisant un nouvel outil appelé un test PCR, qui a été en mesure d'identifier le parasite dans les excréments de gorille. Avant leurs études, on croyait que le parent le plus proche du Plasmodium falciparum est Plasmodium reichenaui, une maladie de chimpanzé. Il semble que toutes les souches humaines de falciparum provenaient d'une seule infection d'un humain avec une souche gorille du parasite. Il est probable qu'il a pu se propager parmi les humains en raison des changements dans l'environnement causés par l'agriculture. Le falciparum peut infecter jusqu'à 80% des globules rouges d'un patient, ce qui le rend très dangereux. Il est également difficile pour le corps de lutter efficacement contre le falciparum parce qu'il y a de nombreuses copies des gènes pour les antigènes ou les protéines qui alertent les globules blancs à la présence d'un intrus. Les protozoaires peuvent contrôler l'expression de ces gènes de sorte que chaque parasite semble différent au système immunitaire. Éventuellement, le système immunitaire d'une personne apprendra à reconnaître suffisamment d'antigènes pour les protéger des pires effets du paludisme, mais ils seront toujours en mesure d'être infectés et de le transmettre à un enfant ou une femme enceinte qui pourrait en mourir. Dans certaines parties de l'Afrique, l'Inde, le Moyen-Orient et les endroits avec de nombreuses personnes avec des ancêtres de ces régions, jusqu'à 40% des gens portent le gène d'une maladie appelée anémie falciforme. Quand quelqu'un a une copie du gène, quelques-uns de leurs globules rouges s'effondreront en forme de croissant, connu sous le nom de cellules fossiles. Mais s'ils sont infectés par le paludisme falciparum, le risque de mourir est 90% inférieur à quelqu'un qui, avec seulement des allèles normaux. Une étude menée par le CDC et l'Institut de recherche médicale du Kenya a révélé que les enfants ayant un gène de drépanocytose avaient 60% moins de chances de mourir dans l'enfance que les enfants sans un. Malheureusement, lorsque deux porteurs auront des enfants, un quart de leurs enfants, ou bien un sur quatre, auront deux copies du gène. Ces personnes auront beaucoup de leurs globules rouges qui s'effondrent en faucille, diminuant l'espérance de vie de leurs globules rouges de 120 jours à 10 ou 20, et causant des dommages à la rate, de l'épuisement, une croissance retardée, des problèmes de vision ainsi que des douleurs intenses causées par le blocage des vaisseaux sanguins par des cellules faucilles collées ensemble, connue sous le nom de crise de drépanocytose. En règle générale, ces problèmes commencent à se produire environ 6 mois avant la naissance. Malheureusement, l'infection par le paludisme est susceptible de provoquer une crise de drépanocytose, ce qui les rend encore plus à risque de paludisme que les personnes qui n'ont pas du tout une copie du gène. Dans les pays développés, l'espérance de vie d'une personne atteinte d'anémie falciforme est de 40 à 60 ans. Dans les pays non développés, elle cause très souvent la mort dans la petite enfance. Dans une population où 15% des personnes sont porteuses de drépanocytose, 2,25 des couples seront tous deux porteurs et environ 1,5% des nouveau-nés auront la drépanocytose. Si 40% des gens sont porteurs, 4% des enfants l'auront. L'incidence de l'anémie falciforme pourrait être considérablement réduite en identifiant le gène chez les gens avant qu'ils ne commencent à chercher des conjoints. Ainsi, les porteurs pourraient éviter d'avoir des enfants qui souffriront pendant toute leur courte vie. Ceci pourrait se faire par des visites médicales aux écoles secondaires qui prendraient quelques gouttes de sang de chaque élève et rechercheraient des drépanocytaires au microscope. Toutefois, dans les pays où le taux du VIH est élevé, cela poserait un risque non négligeable pour les agents de santé. Heureusement, en juin 2020, un patient atteint de drépanocytose et deux personnes atteintes d'une autre maladie du sang appelée bêta-thalassémie ont été guéries en faisant modifier génétiquement leur moelle osseuse pour produire des globules rouges normaux. Il faudrait probablement des années pour que ce traitement devienne largement disponible, en particulier dans les pays pauvres, mais il pourrait éventuellement prolonger des millions de vies. La bêta-thalassémie est également causée par un gène qui protège les porteurs du paludisme. J'ai essayé de savoir si le gène du drépanocytose protège contre toutes les formes de paludisme. La seule source que j'ai pu trouver au sujet de drépanocytes et de vivax était un rapport de cas d'un porteur de drépanocytose qui ne semblait pas être protégé. Le pauvre gars avait un certain nombre d'autres problèmes médicaux aussi, donc ce n'est peut-être pas très pertinent. Plasmodium ovale est en fait plus susceptible d'infecter les porteurs, mais il est possible que ce soit parce que les personnes qui ont été infectées à plusieurs reprises par le falciparum sont partiellement protégées contre l'infection ovale. L'espèce de paludisme la plus difficile à éliminer est le Plasmodium vivax, causant environ 16 millions de cas par an, la moitié de tous ces cas est en dehors de l'Afrique et plus de 70% des infections est dans des pays qui ont moins de 500 cas par an. Lorsqu'ils infectent les femmes enceintes, leurs enfants auront une fonction immunitaire réduite, ce qui les rend plus vulnérables à toutes les maladies pour le reste de leur vie. Vivax était à l'origine soupçonné d'avoir évolué à partir d'une espèce de plasmodium qui infecte les singes en Asie du Sud-Est. Toutefois, une étude menée en 2014 a révélé un plasmodium similaire au vivax chez les chimpanzés et les gorilles de l'Ouest, mais pas chez les bonobos ou les gorilles de l'Est. Ceci indique qu'il est beaucoup plus probable qu'elle provenait de l'Afrique, d'un parasite chimpanzé ou gorille. Vivax infecte les globules rouges, principalement les nouveaux, en se liant à leur protéine de surface appelée le système Duffy, qui est absent dans 95% des Africains de l'Ouest et du Centre. Cela rend la plupart des Africains résistants au paludisme vivax. Toutefois, une étude récente menée en Guinée équatoriale et en Angola a révélé que 10% des moustiques anopheles étaient infectés par le paludisme vivax et l'ont identifié chez certaines personnes négatives de Duffy qui ont été infectées. Du coup, vivax pourrait bientôt devenir un problème aussi grave en Afrique que dans les autres régions tropicales. D'autant plus qu'il est déjà assez courant en Éthiopie et au Soudan du Sud. Comme la population de l'Afrique augmente, je soupçonne qu'il deviendra plus facile pour les moustiques de propager vivax parmi la population positive Duffy. Malheureusement, les personnes qui ne portent pas la protéine Duffy sont plus à risque de contracter le VIH, ce qui peut expliquer en partie pourquoi le VIH est si virulent en Afrique. Mais autrement, être Duffy négatif ne semble pas avoir d'inconvénients. Vivax est plus difficile à éliminer que le falciparum, parce qu'il peut rester dormant dans le foie pendant des mois ou des années, où il est difficile à détecter et à traiter. Le stade dormant est appelé hypnozoïte. En plus d'être en mesure d'infecter quelqu'un longtemps après qu'ils sont mordus et causer de multiples épisodes de paludisme après une seule piqûre de moustique, Vivax est également capable de mûrir et de se faire passer à un nouveau moustique en aussi peu de temps que 3 jours. Il y a beaucoup de débats sur l'impact du Vivax sur la santé par rapport au falciparum, mais il est clair qu'il cause des dommages importants aux personnes infectées. La forme la plus rare et la plus récemment découverte de paludisme humain est Plasmodium ovale, qui est en fait deux espèces étroitement apparentées maintenant appelé Plasmodium ovale curtisi et Plasmodium ovale wallikeri, qui ne peuvent être identifiés qu'avec des tests génétiques. Ils semblent avoir divergé il y a entre 1 et 4,5 millions d'années dans un hôte hominidé. Un hominidé est l'un de nos ancêtres immédiats ou un proche parent d'un de nos ancêtres qui est maintenant éteint. Sous un microscope, ovale et vivax semblent très similaires. Ovale est juste un peu plus ovale, d'où le nom. Comme vivax, ovale peut rester dormant dans le foie et rendre quelqu'un malade longtemps après qu'ils aient été mordus. Ces espèces semblent être plus étroitement liées au paludisme que tout autre paludisme humain, mais rien n'indique qu'elles soient étroitement liées à une espèce de paludisme primate. Ovale n'est estimé à infecter que 15 millions de personnes par an, provoque une maladie relativement bénigne et ne tue que rarement les gens, de sorte qu'il n'est pas aussi bien étudié que les autres espèces de paludisme. Paludisme Knowlesi est généralement une maladie des macaques à longue queue, également connue sous le nom de macaque crabier ou macaca fascicularis, et des macaques à queue de cochon, macaca nemestrina, qui se trouvent tous deux en Asie du Sud-Est, mais il peut aussi infecter les humains. Les macaques à longue queue sont communs à l'état sauvage, en particulier dans les forêts, dans et autour des villes, des villages et des temples, et dans les laboratoires. Ils ont même été introduits dans un certain nombre d'îles où ils causent des problèmes pour les espèces indigènes, y compris Maurice, où, avec les chats et les porcs, ils sont soupçonnés d'avoir joué un rôle important dans l'extinction de l'oiseau dodo en mangeant leurs œufs et les jeunes. Je n'ai pas pu trouver autant d'informations sur les macaques à queue de cochon, mais ils semblent principalement vivre dans les forêts et ont récemment été reclassés comme deux espèces distinctes. Plasmodium knowlesi a été découvert dans les années 1930 avec ou dans certains macaques à longue queue qui étaient transportés de Singapour à Kolkata en Inde pour la recherche sur les maladies tropicales. Après sa découverte, le sang des singes infectés a été injecté dans d'autres macaques à longue queue, des macaques rhésus et trois volontaires humains. Ils ont tous été infectés, mais les macaques rhésus et les humains sont devenus beaucoup plus malades. Les macaques rhésus mouraient généralement s'ils ne recevaient pas de médicaments contre le paludisme. C'est la première fois qu'une espèce de paludisme de singe était capable d'infecter les humains. En outre, il serait très difficile d'obtenir la permission de faire cette expérience aujourd'hui. À l'époque, certaines maladies, notamment la syphilis, étaient souvent traitées en injectant aux patients du sang infecté par le vivax pour causer une fièvre suffisamment chaude pour éliminer les bactéries. Certains médecins, en particulier en Roumanie, avaient commencé à utiliser Knowlesi au lieu de vivax parce qu'il causait la fièvre en moins de temps. Ils se sont arrêtés en 1955 quand il a été démontré que Knowlesi est devenu plus dangereux au fil du temps. Si elle a été transmise à plusieurs reprises par transfusion sanguine. Plus important encore, la pénicilline était devenue disponible de sorte qu'il est devenu possible de guérir la syphilis sans infecter le patient avec une autre maladie dangereuse. En outre, la pénicilline guérissait les gens 100% du temps au lieu de 50%. Heureusement, le VIH n'était pas présent en Roumanie à l'époque. Le premier cas connu d'un humain infecté par le Knowlesi à travers une piqûre de moustique sauvage s'est produit en 1965 lorsqu'un arpenteur de l'armée américaine est tombé avec le paludisme peu après son retour de Malaisie. Mais probablement des milliers de personnes ont été infectées avant lui. Avant qu'il ait été traité et guéri, un échantillon de son sang a été pris et son cas a été mal identifié comme Plasmodium malariae et Plasmodium falciparum par deux laboratoires séparés. Le plasmodium n'a été identifié comme Nolsi que lorsque l'échantillon de sang a été utilisé dans un essai médical et a tué certains macaques rhésus. Après cet incident, on croyait que les cas humains de Nolsi étaient rares jusqu'en 2004, lorsque le docteur Balbir Singh et ses collègues de l'hôpital Capit en Malaisie avaient constaté que 58% de leurs patients atteints de paludisme avaient été infectés par Nolsi. Il a fallu tant de temps pour Nolsi pour être reconnu comme une infection humaine commune parce qu'il ressemble presque exactement au Plasmodium malariae sous un microscope et il ne pouvait pas être distingué sans examiner leurs ADN avec un test PCR ou le délai du traitement et l'observation des cycles de fièvre. Dr. Singh a pensé à tester l'ADN des parasites infectant les patients parce que Plasmodium malariae infecte habituellement les personnes de tout âge, a un faible nombre de parasites, ne représente qu'une petite partie des cas du paludisme et ne cause généralement aucun symptôme et encore moins la mort. Mais les patients qui ont été diagnostiqués avec Plasmodium malariae à Capit étaient principalement d'un âge moyen ou âgé, avaient une parasitémie élevée, représentaient plus de la moitié des patients atteints de paludisme et étaient très malades. Maintenant, quand un cas de paludisme en Malaisie est diagnostiqué comme malarié par microscope, il est répertorié comme malarié Nolsi. Est supposé être Nolsi jusqu'à preuve du contraire, puisque moins de 1% de ces cas sont vérifiés comme malariés par un essai PCR. Heureusement, même si certains enfants ont reçu un diagnostic de Nolsi, très peu sont morts. Il semble donc que ce n'est pas une grave menace pour la santé des enfants, contrairement au falciparum. Plasmodium nolsi est propagé par plusieurs espèces de moustiques vivant dans la forêt qui piquent entre 19h et 22h, mais une seule, Anopheles dirus, dans le centre-sud du Vietnam, a été trouvée infectée par des espèces humaines de paludisme. Cela soulève la possibilité que nolsi se transmet de l'homme à l'homme en Vietnam. Mais sinon, il semble que la plupart des cas humains ont été causés par des moustiques qui ont été infectés après avoir mordu des singes. Toutefois, dans le laboratoire, il a été transmis de l'homme à l'homme et de l'homme au singe par des moustiques. Des études sur les macaques à longue queue dans un temple en Thaïlande et à Singapour ont révélé qu'aucun d'entre eux n'a été infecté par quelconque type de paludisme. Il semble donc que le Nolsi ne peut pas être propagé par des moustiques qui vivent en dehors des forêts, pour l'instant au moins. Jusqu'à présent, le nombre de décès causés par Nolsi semble être faible par rapport au falciparum et vivax, parce qu'ils infectent moins de gens. Cependant, une personne infectée par Nolsi est plus susceptible de mourir qu'une personne infectée par le vivax et à peu près aussi susceptible de mourir qu'une personne infectée par le falciparum. Puisqu'il pénètre dans les globules rouges en s'attachant à l'antigène Dufy, comme le vivax, Nolsi est peu susceptible de devenir une menace sérieuse en Afrique, même s'il commence à se propager de l'homme à l'homme. Il y a six autres espèces de paludisme de singes qui se sont montrées transmissibles à l'homme par des piqûres de moustiques dans les laboratoires, mais une seule, Plasmodium cynomolgi, a été observée infectant un humain dans la nature et un seul cas a été détecté. Cependant, il est presque identique au vivax. Ainsi, il pourrait facilement y avoir beaucoup d'autres cas qui ont été mal diagnostiqués. Comme le Nolsi, le cynomolgi infecte normalement les macaques à longue queue. Espérons que si cynomolgi ou toute autre espèce de paludisme de singe infecte régulièrement les humains, Dr. Singh ou un autre scientifique le saura. Comme les analyses PCR deviennent plus largement utilisées, cela deviendra plus facile. Merci d'avoir écouté mon podcast sur le paludisme. Si vous voulez savoir comment l'arrêter, branchez-vous pour la deuxième partie.